You're racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Un programme extrêmement varié ce soir sur le fond comme sur la forme, de la danse, du théâtre de troupe, un monologue et une création multiforme à notre programme dans l'heure qui vient. Nous allons en effet parler de Artifact de William Forsythe, de L'entêtement de Raphaël Sprengelburt, de Sodome Madouze de Laurent Godet et je passerai vers 21h40 un coup de fil à Yves Degrise pour parler avec lui des nouvelles créations du collectif Anversois, collectif baptisé Dublin. La création, elle, s'appelle Lens End. En plus de ce programme critique et de ce coup de fil, dans une quinzaine de minutes, Antoine Guillot nous livrera sa revue de presse culturelle. Et pour mener cette dispute avec moi ce soir, j'ai le plaisir toujours d'être en compagnie de Joël Gaillot, Anna Segalevitch et Patrick Sourd. Nous ouvrons, comme chaque soir, cette émission avec le répondeur téléphonique de la dispute qu'on peut appeler au 01 56 40 25 11.
Oui, bonsoir. Serge Feuillard, décidément ça continue. Espèce est toujours transsexuelle à France Culture. Alors vos critiques ce soir, et ce sont des dames, et surtout une que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui s'évertue à dire un espèce d'eux est une chose insupportable. Pourquoi un espèce d'eux ? Alors, je ne souhaite pas dire son nom, mais ça me rend malade que ce soit réservé à d'autres chaînes de radio, mais pas à France Culture, surtout une dame qui est une bonne critique de théâtre en général. Faudrait-il qu'elle soit au moins critique du français qu'elle parle ? Merci.
Merci à mon grand allié de ce combat que je mène depuis des années. On aura envie de dire de qui il s'agissait. On peut dire qu'elle était là la semaine dernière, cette grande critique théâtrale. Ça m'a tellement choqué qu'elle dise elle-même aussi « un espèce de ». Allez, si vous voulez nous donner des conseils de français, mais aussi vous disputer, commenter, réagir, vous exprimer, vous composer, le 01 56 40 25 11, nous attendons vos messages. La dispute est ouverte, vous y êtes tous conviés.
Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte.
Allez, vous devriez mourir de pure honte. De telles actions ne sauraient s'excuser. Tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments, vous charger la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme.
On commence effectivement par un classique, mais alors un jeune classique, Artifact, pièce chorégraphique de William Forsythe, donnée en ce moment au Théâtre National de Chaillot à Paris jusqu'au 30 novembre par le Ballet Royal de Flandre, qui dansera ensuite Impressing the Tsar, avant que la Forsythe Company ne donne une création en France, Cider.
Thank you.
J'aurais bien écouté Jean-Sébastien Bach jusqu'à 22h, mais malgré tout, nous sommes là quand même pour nous disputer. Le ferons-nous autour de cet artefact où Jean-Sébastien Bach est très présent, dans cette pièce de 1984 de William Forsythe, présentée pour la première fois à Paris en 1988. C'était au Théâtre du Châtelet par le Ballet de Francfort, qui était alors dirigé par William Forsythe. La pièce fut très mal reçue à l'époque par le public parisien, qui l'acclama 4 ans plus tard, en 1992, quand la pièce fut à nouveau jouée au Théâtre du Châtelet, toujours. Qu'en est-il 20 ans plus tard, où cette pièce est à nouveau présentée dans le cadre du Festival d'automne? Là, c'est le Ballet Royal de Flandre, je le dis, qui danse Artefact. Qu'en est-il de ce classique contemporain? Tiens, Patrick Sourd, qui me regarde avec ses yeux perçants ce soir. Patrick,
Ça n'a pas pris une ride. Et
c'était peut-être vieux à la création, hein. Non, je dis ça juste pour, oui, mais pour bon, lancer la dispute.
Ça devait être jeune à la création, en fait. Et en fait, moi, ce qui m'a, enfin, c'est une pièce que j'ai découverte là, et on m'en a parlé comme d'un monument de danse. Et ce que j'ai aimé, c'est que ce monument, justement, il commence presque par effraction, c'est-à-dire que si on n'est pas attentif à ce plateau nu devant lequel on est, et on peut très bien rater les premières images. Et c'est la même chose à l'entracte, c'est-à-dire qu'à l'entracte, tout le monde n'est pas encore à nouveau assis, et ça redémarre. Donc ça, j'ai adoré ça, et j'ai adoré cette idée que, en permanence, en tant que spectateur, on a l'impression d'être distancé par Forsythe, essayer de le rattraper, d'être dans... Mais... alors lui-même, qu'est-ce qu'il fait? L'idée, c'est une pièce manifeste qui, d'une certaine façon, fait rentrer la performance et le théâtre dans l'univers d'un ballet classique. Donc c'est quelque chose que Forsythe travaille avec. Souvent le rideau ton, c'est-à-dire qu'il y a comme des tableaux présentés. Des choses qui se développent, et puis tout à coup il arrête, le rideau se relève, il y a à nouveau un autre tableau qui apparaît. Les lumières d'ailleurs à ce titre-là sont très intéressantes parce qu'elles sont sous forme de pinceau, et on a l'impression de lire un peu ces tracés régulateurs qu'il y a dans la peinture, c'est-à-dire une façon de diriger le regard, de faire rentrer le spectateur dans l'histoire.
Le rideau, c'est aussi comme des yeux qui clignoraient aussi,
très
clairement, c'est ça qui est proposé.
Oui, mais à la fois, bon, on pourrait dire aussi c'est le rideau du pep show qui tombe et qui fait qu'on va
remettre une pièce dans le bastringue, comme dirait l'autre.
Exactement. Ce qu'il faut dire donc, c'est que cette pièce, il y a deux personnages principalement qui viennent perturber le ballet. C'est une genre de Marie-Antoinette en perruquée qui est interprétée par Kate Strong, et un vieil homme avec un haut-parleur, une espèce de protestataire qui est là. Et alors, il faut se rappeler aussi, si on a été à Avignon au Vif, que Kate Strong a fait une performance qui s'appelait Narcisse O, dans lequel elle racontait les déboires d'une performeuse actrice qui vieillit. Et elle disait en particulier que Forsythe, par exemple, elle l'appelait et qu'il ne répondait jamais. Et là, je dois dire que, bon, il a bien fait de la rappeler parce que c'est magnifique ce qu'elle fait.
Il a bien fait de décrocher. Anna Segalevitch, qu'est-ce que vous avez vu? D'autres images pour nos auditeurs?
Oui, je vous donne des images. Alors déjà, c'est un ballet qui est composé pour 34 danseurs. Donc on a beaucoup de monde sur scène. Il y a toujours un sens géométrique de l'organisation de l'espace qui est complètement démonte chez Forsythe, extrêmement riche, vertigineuse, avec, bon, on peut dire que c'est que surtout Forsythe, le Forsythe du début des années 80, est encore dans quelque chose d'assez néoclassique, dans la lignée de Balanchine, avec un travail beaucoup sur les décalés, sur les déhanchés, avec des bras tendus, avec des poignets cassés, où on a un corps de ballet. Donc il y a en fait réellement, il y a quatre parties, je dirais. La première partie qui est où on voit un corps de ballet qui est assez anonyme dans une sorte de pénombre, avec effectivement cette figure de moi je dirais un peu de reine-mère, de maîtresse de ballet comme ça, qui dirige en disant d'ailleurs, enfin elle le dit en anglais, mais elle dit en dehors, en dedans, enfin qui utilise vraiment les codes de la danse classique, où il y a des traversées de danseuses qui utilisent aussi les codes de la danse classique avec des bras en première, en seconde, en première, en couronne, mais tout ça tordu et qui reviennent de façon en leitmotiv, comme fait beaucoup Forsyth. D'ailleurs, il y a un travail sur la musique, comme ça, sur la chaconne de Bach, qui est interprétée au violon par Nathan Bienstein, qui est bon, évidemment enregistré, qui est aussi reprise à un moment par la compositrice au piano, par la pianiste, au piano, avec des basses amplifiées. Enfin, il y a comme ça un travail sur le mouvement, la construction du mouvement, sur le rapport au ballet classique et à la musique classique et la façon dont il les transforme et dont il les modernise, qui est tout à fait étonnant. C'est techniquement absolument virtuose. Je dois dire que le Ballet Royal de Flandre, vraiment, est composé de danseurs de haut vol. C'est vraiment magnifique. Elles sont tout le temps sur pointe, les danseuses. Ça ne s'arrête jamais. C'est un travail toujours sur le décalé. Parce que ce qui est aussi très particulier dans le travail de Forsyth, c'est que le mouvement, il passe d'une position à une autre, mais c'est presque, c'est-à-dire que c'est pas les gestes en soi qui sont importants, c'est le passage d'un geste à un autre. Et donc il y a des arrêts sur des mouvements qui sont presque en déséquilibre, qui sont vertigineux, qui sont inquiétants pour le spectateur. Et ça crée une sorte de dynamique et rythmique et d'occupation de l'espace qui est très particulière.
On va laisser Anna reprendre son souffle.
Je n'aurai pas la précision
Joël
d'Anna.
Gaillot.
Certainement pas. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. D'abord, je trouve que ces danseurs sont beaux. C'est-à-dire, moi, je rêverais d'avoir un corps comme ça. Je les trouve absolument sculpturaux. Tous, ils sont taillés. Ils n'ont pas un poil de graisse. Ils sont absolument magnifiques. Et c'est vrai, hein, ils sont en juste corps.
Ils ont une vie terrible, vraiment, vous savez, en même temps.
On voit leur
Mais
corps.
Mais ça parle de ça aussi beaucoup.
Oui.
De l'engagement, effectivement, de cet engagement dont parlait Anna, qui est permanent, incessant. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est qu'il y a quelque chose d'assez martial, d'une certaine manière, dans ce travail de Forsyth, d'un peu militaire.
Ah bah, sur les alignements, les décalages,
absolument,
etc.
C'est au cordeau. Hein. Et surtout, cette coordination, cette espèce de synchronisation, espèce de synchronisation qui vraiment fait aussi la qualité du spectacle et c'est comme si c'était des marches militaires mais complètement détournées, effectivement ramenées à la danse. Et du coup, cette danse qui visiblement en emprunte quand même à la grammaire classique, elle se propose à nous complètement débarrassée de ce corset classique. Donc il y a une fluidité, une limpidité qui est absolument incroyable. Et du coup, on a l'impression d'avoir devant soi une danse qui n'arrête pas à la fois de s'évanouir et de jaillir, avec cette touche d'humour qu'apporte Forsyth, avec ces personnages qui sont là pour parasiter un petit peu le déroulement du ballet. Moi, je trouve que voir un spectacle en 2011 qui a été créé en 1984 et à aucun moment ne se poser la question de sa pertinence aujourd'hui, de son actualité, du fait qu'il est ou pas dans une tendance, qu'il est moderne, post-moderne, que voilà, il succède à tel ou tel chorégraphe. Je trouve que c'est le signe que Forsyth a touché là une sorte de quintessence de son art. Pour moi, c'est vraiment une sorte d'essence de la danse. C'est presque comme un concept de danse qui est mis en œuvre devant nous.
Oui, c'est quelque chose sur l'agent perturbateur aussi, ce qu'on disait sur cet aspect un peu martial, en fil, en colonne, en frontalité comme ça, en rangée, avec ces parasites comme ça, quelque chose qui grippe un peu la machine.
Ces parasites et puis les solistes. Enfin, moi, je trouve qu'il est assez violent hein, quand même sur son discours sur la danse classique, parce que au départ, donc ils sont comme ça, le corps de ballet, on ne les voit quasiment pas, ils sont dans l'obscurité. Dans la deuxième partie, c'est effectivement très militaire et il y a les solistes au milieu. Dans la troisième partie, moi j'ai eu le sentiment qu'avec ces corps qui s'emballent et avec cette maîtresse de ballet qui parle très très vite, que les danseurs devenaient lobotomisés et qu'il n'y avait plus que les mouvements qui parlaient et qui devenaient décérébrés. Et dans la quatrième partie, excusez-moi, dans la quatrième partie, ce ne sont plus que des ombres. Donc ça veut dire que et les solistes retournent dans le rang. Donc à la fois, il utilise énormément les codes de la danse classique, il les aime, mais en même temps, il en dénonce la hiérarchie,
la violence de classe.
D'ailleurs, je voudrais dire qu'il y a à l'opéra très bientôt, à partir de la semaine prochaine, les démonstrations de l'école du ballet. Et je trouve que c'est très intéressant parce que effectivement, on a l'impression, quand on va voir ce genre de choses, d'entrer dans une société complètement parallèle, quoi, où c'est hyper hiérarchisé, c'est totalement tyrannique, et en même temps, c'est sublime, parce que pour pouvoir déhancher comme l'impose la chorégraphie de Forsyth, il faut quand même une technique classique béton.
que Patrick Sourd possède sur le bout des doigts et des pointes.
Ce que j'ai eu le sentiment aussi, puisque je découvrais Artifact et que par contre j'avais vu les derniers spectacles de Forsythe, j'ai eu vraiment le sentiment que c'était la même écriture qui développait et que l'on pouvait en fait réellement trouver du lien entre ce travail fait en 84 et ces dernières pièces. Et vraiment, c'est quelqu'un qui développe une pensée. Dans la démarche, il y a quelque chose qui est continu et qui, à chaque fois, parle du présent. Et c'est ça qui moi, m'a vraiment touché.
Mais c'est vrai que c'est étonnant comme cette pièce fonctionne bien aujourd'hui, parce que moi, je trouve qu'il y a des pièces, pour le coup, de Forsythe des années 80-90 qui sont très datées. Hein, quand il utilise des formes pures, très abstraites, avec ses académiques de couleurs comme ça. Et c'est vrai que le génie de ce ballet, c'est qu'on ressent absolument pas ça. C'est pas du tout marqué dans une époque, alors que certaines de ces pièces le sont, je trouve.
Joël Gaillot ?
Alors, très curieusement, ça m'a fait penser, mais alors c'est peut-être parce que j'avais vu un travail de lui à Chaillot précédemment, et que chaque fois qu'on rentre dans cette salle de Chaillot, qui est quand même une des plus grandes salles de Paris, il y a 1250, je crois, places dans la salle disponible pour les spectateurs, on se demande ce qu'il va falloir faire en face pour occuper cette espèce de vastitude à la fois de la salle et de la scène. Et là, c'est vrai que lui, il investit la scène avec à peu près, je crois, 40 danseurs. Donc voilà, il y arrive. Et moi, curieusement, ça m'a fait penser au travail, pardon de faire ce détour, mais presque au travail de Bartabas, qui avait fait un travail là-bas qui s'appelait Le Centaure et l'Animal, et qui était un peu de même nature sur, effectivement, la manière dont, à la fois, on est en coupe réglée et en même temps, on en appelle à une certaine forme de sauvagerie. Et je trouve que dans le travail de Forsythe, parce qu'il y a aussi ces trappes qui s'ouvrent et d'où jaillissent des mains qui viennent des profondeurs du plateau, on n'est pas loin d'une certaine sauvagerie, mais une sauvagerie qui est complètement organisée, qui est convoquée ou invoquée par cette dame qu'évoquait Patrick, là, avec la choucroute sur la tête, ou par cet homme avec le porte-voix. Il y a quelque chose d'un peu déréglé qui se passe aussi pendant la partition et le ballet.
William Forsythe à Chaillot, donc c'est dans le cadre du Festival d'automne à Paris, jusqu'au 30 novembre, Artifact, par le Ballet Royal de Flandre, et le même ballet qui va présenter une pressing de Tsar, c'est du 6 au 10 décembre, et puis enfin, il y aura la Forsythe Company qui viendra présenter Cider, c'est une création en France, du 15 au 17 décembre. Pour les dates d'Antoine Guillot, c'est plus simple, c'est du lundi au vendredi, vers 21h 17, 18, 19, dans la dispute, pour sa revue de presse. Bonsoir mon cher Antoine.
Bonsoir mon cher Arnaud et bonsoir chers toutes et tous. Ce soir on reste dans la danse avec Sarah Bartman. Sans abdélatif Kechiche, ce nom de Sarah Bartman continuerait sans doute à appartenir aux oubliettes de l'histoire. Depuis Vénus Noire, son film de l'an dernier, on sait que telle est la véritable identité de la Vénus Hottentote, cette bête de foire, monstre sexuel, cas scientifique, femme martyr exhibée en Europe pour ses énormes fesses et le mystère de son sexe protubérant, comme l'évoque Rosita Boisseau dans Le Monde. Née en Afrique du Sud en 1789, esclave dans une ferme avant d'être vendue comme attraction au début du 19e siècle, elle mourut en 1815 à Paris, où son squelette devint une attraction du Musée de l'Homme jusqu'au milieu des années 1970. Si la critique danse du Monde revient sur l'histoire de la Vénus Hottentote, c'est parce que quatre chorégraphes s'emparent ces jours-ci du personnage de cette femme Calipige, dont la vie appartient à la culture de l'Afrique du Sud, raconte la chorégraphe Robin Orlin. Je n'aurais sans doute pas mis en scène ce spectacle dans mon pays, confie-t-elle. Je ne m'y serais pas sentie légitime en tant que blanche. Mais en Europe, et particulièrement en Allemagne, où je vis depuis 10 ans, on ne connaît pas cette femme, devenue une sorte de symbole de la femme africaine. Simple hasard de calendrier, toujours est-il qu'elles sont donc quatre femmes, danseuses et chorégraphes, à faire aujourd'hui de Sarah Bartman l'inspiratrice de leur spectacle. Robin Orlin donc, mais aussi Nelly Siwik Zaba, toutes deux sud-africaines, l'une blanche, l'autre noire, Chantal Loyal et guadeloupéenne et Annabelle Guerredra, martiniquaise, toutes deux brandissent leurs racines antillaises et l'histoire de l'esclavage pour mieux cousiner avec cette figure magnétique. Lors de la dissection de son cadavre, l'anatomiste Georges Cuvier, découpant ses fesses, Grèce, découvrit qu'elle n'était faite que de graisse, point d'exclamation, avait-il écrit à l'époque. Le postérieur de la Vénus Sara est caractéristique de l'ethnie Khoisan, l'une des plus anciennes d'Afrique du Sud. La silhouette calipige de Chantal Loyal, qui s'est rebaptisée avec Gouaille la danseuse aux grosses fesses, a fait le succès de cette interprète remarquable des chorégraphes José Montalvo et Dominique Hervieux. Elle-même chorégraphe depuis 1994, elle a découvert Sara Bartman il y a 5 ans. « Je me suis senti terriblement proche d'elle », confie-t-elle au Monde. « Son histoire m'allait en quelque sorte comme un gant. Pour la première fois de ma carrière, j'ai osé parler de mon corps, de mes fesses, sans passer par l'humour. J'ai même pris le risque, après beaucoup d'hésitations, de me montrer nu. En me confrontant à la souffrance de Sara, je n'avais plus le choix. Il fallait y aller. » Le solo de Chantal Loyal, on t'appelle Vénus, concentre aussi certaines des problématiques qui l'obsèdent depuis toujours, la différence, le rapport aux hommes et au pouvoir, l'identité et les traditions antillaises. Ce ton politique franc, souvent malicieusement détourné par la danse, Chantal Loyal le partage avec les Sud-Africaines Robin Orlin et Nelly Sewick-Zaba, qui fut longtemps interprète dans la compagnie de Robin Orlin. Dans « Have you hugged, kissed and respected your brown with Venus today ?» on reconnaît le goût de Robin Orlin pour les titres à rallonge. Robin Orlin, donc, dont chaque pièce depuis le début des années 1990 prend au collet la société post-apartheid, entend évoquer le colonialisme, mais d'abord la femme africaine et la façon dont elle est traitée partout dans le monde. Pour Sarkozy Says No to the Venus, solo inspiré par Sara Bartman, présenté le 25 octobre au Pavillon Noir à Aix-en-Provence, Nelly Sewick-Zaba joue sur sa garde-robe pour tenter d'alléger la lourde histoire de la femme sud-africaine. Plus qu'à la Vénus, je m'intéresse à toutes les filles qui sont privées d'expression, assène-t-elle. Il me semble que la nouvelle génération a oublié que le combat continue. Les femmes sont toujours trompées, violées, leurs droits ignorés et supprimés. On dirait que nous sommes revenus aux années 1960 et que tout est à recommencer. Les souffrances vécues par Sara Bartman sont celles de nombreuses femmes, encore aujourd'hui, dans le monde. Chanson douce, en revanche, sur le plateau du 104 à Paris, le week-end passé, puis cette semaine au Théâtre de la Ville pour le spectacle de Robin Orlin, avec des comédiennes noires au faux cul, gonflées comme des ballons. Mais Vénus vient de différents pays africains, mais aussi des États-Unis, commente Orlin. Avec elle, j'essaye évidemment d'avoir de l'humour sans verser dans l'exotisme. J'ai adopté une petite fille d'Afrique du Sud et je réalise chaque jour combien il est difficile d'être une personne de couleur en Europe. Le combat de Sara Bartman continue. Ce cri de guerre lancé pour la dignité de la femme noire ou métisse, Annabelle Guerredra le gueule dans son solo « A Freak Show for S ». Pire, note Rosina Boisseau, dans Le Monde, elle revendique d'être une danseuse, une vraie, sexy et attirante, à pas de choix pour un public voyeur. En mini-mini-short rouge, talons aiguilles, perruque afro et grosses lunettes de soleil, cette artiste, historienne de formation, fonce dans le tas. Elle beugle, triture, massacre un texte écrit par ses soins et intitulé « Attention, c'est-elle une erreur ?» tout en racontant la vie monstrueuse de la Vénus noire. J'avais aussi envie d'exposer mon corps dans une tenue un peu indécente pour questionner la façon dont les gens, et en particulier les décideurs, majoritairement blancs, regardent ma performance, explique Annabelle Guerredra. Il y a une relation parfois presque néocoloniale entre ceux qui ont le pouvoir et les artistes du continent noir. Les uns fantasment sur le corps exotique et cherchent la perle black de la danse, tandis que les autres tentent de conserver leur intégrité tout en décrochant du travail. Au fait, qui se dissimule derrière le S du titre de son spectacle ? Sara, la Vénus autantote, répond Annabelle Guerredra, mais aussi ma grand-mère juive, qui portait le même prénom, et ma mère, qui s'appelle Simone. Ronde de femmes autour de Vénus, conclut la critique danse du Monde. Vous retrouverez toutes les dates et lieux des spectacles de cette ronde de femmes autour de la Vénus autantote sur franceculture.fr, à la page de la revue de presse culturelle.
Qu'on peut également podcaster séparément. Merci Antoine Guillot. Et nous poursuivons donc cette dispute consacrée le lundi soir au spectacle vivant sous toutes ses formes ce soir en nous rendant au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis pour découvrir la suite des aventures communes de l'acteur et metteur en scène Marcel Defonzobo et de l'auteur Raphaël Spregelburd avec Élise Vigier qui co-signe la mise en scène. C'est donc la 4e fois que Marcel Defonzobo s'attaque à un texte de l'auteur argentin, texte qui fait partie d'un ensemble, une heptalogie inspirée à l'auteur par un tableau de Bosch, La roue des 7 péchés capitaux. On avait pu voir précédemment La connerie et La paranoïa à Chaillot, et là c'est à Saint-Denis qui est présenté après sa création au Festival d'Avignon. L'Entêtement, un spectacle dans lequel, outre les metteurs en scène, on retrouve sur le plateau Judith Chemla, Sol Espèce, Jonathan Cohen, Pierre Maillet, Félix Ponce et Clément Ciboni. Je les cite tous exprès, puisque c'est vraiment un travail de troupe qui nous est proposé au service d'un texte traduit par Martial Difonzobo et Guillermo Pisani, édité chez L'Arche, L'Entêtement qui se joue à Saint-Denis jusqu'au 4 décembre et qui poursuivra aussi sa tournée à Beauvais, à Saint-Quentin-en-Yvelines, Nîmes, Toulon, Strasbourg et Liège. Pas de bande FM, mais un poste TSF, voilà ce qu'on pouvait sans doute entendre en 1939 en Espagne, sur un poste de radio comme chez ce commissaire de police chez qui nous allons nous rendre, un commissaire un peu particulier puisqu'il est surtout passionné de linguistique et qu'il est l'inventeur d'un langage universel baptisé le katak. Cet homme a une jeune fille, semble-t-il assez dérangée. Un curé qui n'est pas moins dérangé va peut-être venir la soigner, l'exorciser peut-être, mais d'autres choses encore. Passe par là un russe, un éditeur, un écrivain, les écrivains ne sont jamais loin des éditeurs, un milicien, plusieurs femmes, dont il faudra s'en méfier peut-être une bonne. C'est une autre façon de réécrire les bonnes que nous propose là Raphaël Spregelburd, je le dis encore pour le plus grand plaisir d'Antoine Guillaume. Ça vous fait penser à quoi, Antoine ?
À un chef-d'œuvre d'André Franquin dans les aventures de Spirou et Fantasio qui s'appelle QRN sur Bretzelbourg.
Non, je crois que c'est son vrai nom, cet auteur argentin qu'on connaît déjà donc, grâce à Martial Difonzobo. Depuis quelques années déjà, L'Entêtement au théâtre Gérard Philippe, Anna Segalevich. Parce que je n'ai pas évoqué une dimension importante du spectacle, dimension temporelle, on peut dire aussi dimension spatiale, puisque cette maison nous fait tourner la tête.
Oui, la scénographie est composée d'une sorte de plateau tournant, parce qu'en fait la pièce se déroule de 17h à 18h15, et on a trois angles de vue différents. Donc on a une partie qui est dans le salon de la famille, une partie qui est dans la chambre d'Alfonsa, donc la jeune fille dérangée, comme vous dites, et une autre partie qui est dans le jardin. Voilà, et donc le plateau va tourner. Il est d'ailleurs un tout petit peu penché,
assez, quelque chose d'un peu bancal. Très incliné, oui.
Voilà, je trouve que la scénographie est assez belle. Et à part ça, moi je dois dire que je suis un peu déroutée par ce spectacle. J'ai un sentiment mitigé et confus parce que pour moi, il y a une très belle équipe sur le plateau, incontestablement. Il y a un sens du plateau de la part de Martial Difonzobo qui est magnifique. Il y a plein de registres différents de théâtre. On passe un moment par le vaudeville, par la tragédie, par le burlesque. Enfin, c'est assez riche et foisonnant. Les acteurs sont merveilleux. Judith Chemla en tête, qui pour moi est absolument divine. Enfin, je pense que c'est la plus grande actrice de sa génération. Je sais pas. À chaque fois que je la vois en scène, je me dis mais c'est fou. Elle fait rêver quoi, cette jeune fille. C'est merveilleux tout ce qu'elle arrive à incarner.
Elle fait rêver en même temps qu'elle fait peur aussi.
Elle fait peur,
ça vous aura
mais
pas
toujours
échappé.
Avec beaucoup de finesse.
Non mais j'ai tellement employé de superlatif pour parler d'elle depuis quelques années non, que je souscris
par la
parfaitement.
Grâce. Elle avait mis elle s'était mise en scène dans un spectacle tue-tête l'année dernière. Au Bouffe du Nord, elle était aussi dans le Russell Banks de Beau Lendemain.
Et son passage au français avait envoyé beaucoup d'air frais dans les salles de la Comédie Française.
Oui, absolument, absolument. Mais elle n'est pas restée très longtemps.
Galine Stoeff, notamment, dont on parlait il n'y a pas si longtemps, il y avait une illusion comique où elle était assez
formidable.
Elle
était assez géniale. Même dans le Misanthrope, elle était très bien quand elle jouait.
Judith Chemla en tête, donc on voit beaucoup.
Judith Chemla, qui est à tomber, qui joue deux. Alors la plupart des acteurs incarnent deux personnages. Plus, alors pour moi.
Ou plus.
Ou plus.
Ou moins.
ou moins. Martial, en interne, mais Spiegelberg, je crois, il y a 25 rôles à peu près, et il y a 5 acteurs qui doivent se partager les rôles, a priori.
Dans ils ont triché, là, parce qu'ils sont plus que 5, alors.
Oui, bah, ils ont triché par rapport à tout, c'est-à-dire l'adaptation aussi. Ils se sont arrachés les cheveux pour que le texte puisse être adaptable au théâtre. Sinon, ça durait des heures. Le texte est très, très long. Déjà, c'est un peu long, le spectacle. Et ils ont
c'est toujours long, Spiegelberg.
Ils ont été obligés vraiment de faire un travail d'adaptation compliqué.
Ah, c'est intéressant, ça. Vous pouvez nous en dire plus, Joël ? Parce que, effectivement, ce sont des questions que je me posais en tant que spectateur sur ce montage-là. Bon, bien sûr, l'idée de rejouer 3 fois la même heure et quart sous 3 angles différents, ça, on imagine que ça fait partie du projet de Spiegelberg. Mais après, effectivement, le montage.
Mais le montage résulte effectivement de ces coupes. Parce que s'ils avaient joué la pièce dans sa totalité, c'est une pièce qui dure beaucoup plus longtemps. Et ce qu'ils expliquent, c'est que, en fait, même quand ils enlevaient 2 lignes à ne serait-ce qu'un bout de dialogue, en se disant bon c'est pas grave, voilà ça va passer, et eh bien 4 scènes plus loin, ils s'apercevaient que les 2 lignes avaient un impact et que là il fallait tout reprendre. Donc ils se sont vraiment beaucoup cassé la tête.
Parce qu'il y a une mécanique terrible chez Spiegelberg, alors qui est très inspiré de telenovelas qui font partie de son univers et qui sont d'ailleurs d'une façon que je ne dévoilerai pas présente un petit moment dans ce spectacle, mais on avait déjà le cas dans la estupidesse, la connerie, et ça joue sur la durée aussi forcément. Donc le spectacle fait quoi, 2h15, 2h20
à peu près,
Ce qui est pour moi quand même malgré tout un tout petit peu un problème, la première partie m'a paru bien plus longue que les 2 suivantes. Joël Gayot.
Je crois qu'il n'y a pas qu'à vous qu'elle m'a paru plus longue. C'est-à-dire,
je me sens moins seule.
Je ne suis pas revenue le voir au Théâtre Gérard Philippe, j'aurais sans doute dû, je suis restée sur mes souvenirs d'Avignon, et le souvenir que j'ai c'est une première partie inaudible, absolument incompréhensible. Moi j'étais complètement perdu dans ce qui se passait, je ne comprenais rien.
Ça me rassure.
Mais ce qui me rassure, moi, c'est que vous qui avez un regard frais, vous n'avez pas davantage compris. Donc, je suis allée un peu me plonger dans le livre et c'est pas plus clair pour moi en feuilletant le livre, mais bon, il faudrait peut-être le prendre plus sérieusement que je ne l'ai fait. La première partie est vraiment confuse. Peut-être parce qu'il y a trop de choses aussi que Spiegelberg veut dire. C'est un texte qui est extrême. C'est un texte qui est vraiment très ambitieux. Il est ambitieux dans sa forme, il est ambitieux dans son propos. Il y a des tas de fils à tirer. On ne sait pas sur lesquels tirer. Et finalement, ce qu'on finit par tirer, c'est ce qu'amènent les acteurs. Et notamment, Anna le disait, et c'est vrai que Judith Chamla, par exemple, elle emporte la part du diable. Et 3 mois après, ce dont on se souvient, c'est l'histoire de la jeune fille qu'interprète Judith.
Surtout parce qu'il y a Pierre Maillet aussi qui est présent et qui ramène lui aussi magnifiquement.
J'y vais, en se souvient aussi de Pierre Maillet en prêtre assez louche et assez un peu tendance défroquée. Et on se souvient surtout de ça, c'est-à-dire de ce que les acteurs, eux, ont réussi à imposer par leur jeu. Donc, Martial Difonzobo en commissaire, très intéressant parce que Martial Difonzobo, il joue toujours des rôles où il est un peu menaçant, c'est un bonhomme sympathique et en même temps, on sent toujours couver derrière une chose pas terrible, pas très gentille. Et là, c'est le cas, c'est un commissaire qui à la fois veut inventer une sorte de langue universelle type espéranto, le Qatar, et en même temps,
Katak, c'est pas type espéranto. Justement, c'est
supplanter l'espéranto.
En même temps, je crois que voilà, Spiegelberg... il veut supplanter l'espéranto parce que le personnage du russe, c'est clairement Zamenhof, je pense, le vrai inventeur de l'espéranto. Et Zamenhof, qui était
Croyez avoir compris quelque chose, Anna ? Non, écoutez Patrick.
Écoutons Patrick. J'y reviendrai.
Non, mais le théâtre de Spiegelberg, c'est un théâtre fait pour les acteurs, pour qu'ils et qui leur propose une série de jeux. Et ça a été le cas dans tout ce qu'on
Est-ce que c'est fait pour les spectateurs ? C'est peut-être ça la question qu'on peut se poser ici ce soir.
Non seulement... jusqu'à présent, les acteurs avaient des rôles un peu de zozo, soit dans la science-fiction, soit dans la recherche de la martingale qui va gagner ou qui va arrêter le monde. Là, moi, ce qui me fait un peu bizarre, c'est qu'on se retrouve pendant la guerre d'Espagne, mais du côté des fascistes.
Donc,
j'en ai parlé avec l'auteur, avec Martial Difonzobo, et eux disent qu'en France, on a un problème avec le rire et que justement, si on veut pas faire passer des choses, il faut oser arriver à mettre en situation quelque chose de différent que ce qu'on fait habituellement et de faire passer les choses par le rire. Cela dit, moi, il y a un moment, je trouve que ça devient plus drôle du tout de rire de fascistes qui sont en train, en plus, de gagner la guerre. Quoi.
Et de faire une liste pour savoir qui est-ce qu'on va exécuter dans le village.
Oui, c'est quand même ça. Et donc, le fils,
le MacGuffin de la pièce, c'est ça.
Lis, en gros sur le programme du festival d'automne en exergue l'endroit où un projet humaniste peut rejoindre une idéologie fasciste, ça fait drôle, quoi, parce que si c'est la seule chose qu'on tire de cette pièce, c'est exactement l'inverse de ce que les auteurs et les acteurs tentent de faire. Donc il y a quand même cette tentation, et moi c'est vrai qu'à un moment donné, je reste un peu en arrière, j'arrête de rire parce que je trouve pas ça drôle, et que je sais que derrière toute cette comédie qu'ils me font, y a des gens qui se disent finalement... le projet humaniste peut rejoindre une idée.
Joël.
Oui, en même temps, ce serait dommage de rester sur une note trop négative par rapport à ce spectacle, parce que quand même, il faut reconnaître à Martial Di Fonzobo et à toute sa troupe, parce que c'est tous des fidèles
qui cosignent la mise en scène,
et puis les acteurs qui sont des acteurs assez familiers de son univers. Il faut le reconnaître quand même une chose qui devient assez rare malheureusement dans le théâtre, qui est une sorte d'appétit de jeu. Ça fait du bien, c'est quelque chose d'agréable. Et ils ont quand même une capacité là-dessus. À se travestir eux-mêmes, qu'ils deviennent, que les hommes deviennent femmes, ou même que les hommes deviennent prêtres, ou peu importe. Oui, mais c'est important.
C'est important c'est parce que au moins il y a,
au moins il y a ce plaisir-là.
C'est pas le sujet, c'est le point de vue, qui n'est pas du tout clair.
Le sujet et le point de vue de prendre le contre-pied de ce qu'on fait d'habitude.
En même temps, il semble que la morale est rétablie à la fin de la pièce.
Mais non, on va rigoler à la fin quand même. On pleure.
Plus ou moins la fameuse bonne qui arrive à la fin et plus,
mais moi j'ai quand même le sentiment
Il y a une phrase au début qui dit.
Patrice.
Non, je dis, il y a une phrase au début qui dit que en perdant, quand les fascistes ont gagné, on a perdu la guerre pour l'humanité. Enfin,
au début, on
se positionne en disant voilà, on va vous montrer une grande défaite, mais à la fois après ça dure deux heures.
Mais depuis la connerie qui était la première pièce moi que je voyais de Raphaël Spreegelburg, comme j'imagine vous, je me demande effectivement si Marcel Di Fonzobo s'est pas trompé d'auteur quand même dans son choix, parce que chacun, il veut peut-être avoir son Lagarce, avoir son Goltès, avoir son je fais tomber ma bouteille d'eau. Sauf qu'à un moment donné, ces pièces-là, moi, depuis le début, alors c'était dans une sorte de vaudeville pas très intéressant avec la connerie, la paranoïa, c'était autre chose. Et là, on est toujours davantage dans des questions qui sont un peu embêtantes.
Non, parce que c'était plus clair. Copie, était plus réussi quand il travaillait sur les textes. Ah
oui. Oui, mais bon, Copie comme plein d'autres metteurs en scène l'ont monté. Je pense qu'il a pas le même rapport et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il veut nous forcer à...
Vous soulevez un point intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, les metteurs en scène aujourd'hui... Ils veulent leur auteur, comme Chéreau a trouvé Coltès.
Ça n'arrive pas assez souvent.
Non.
Il faut peut-être pas forcer. Pardon, Anna Segalevich.
Non, mais je suis absolument d'accord avec vous, parce que le sentiment... Enfin, qu'on a à la fin de la pièce, c'est quand même d'avoir un énorme décalage entre l'appétit, comme vous disiez, Joël, des acteurs, du plateau,
et le plaisir qu'on peut en avoir, nous, qui est réel par moments.
Absolument. Et l'épaisseur, pour moi, et l'opacité du texte. C'est-à-dire que je trouve ça extrêmement compliqué, mais pas si complexe que ça. C'est-à-dire qu'on se demande, mais pourquoi tout le temps ces fausses pistes, ce polar, tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ils tirent beaucoup de fils, alors avec des qualités, des fils qui sont parfois intéressants. Moi, j'aime beaucoup cette idée du personnage qui a inventé l'espéranto, qui arrive. J'aime bien aussi les réminiscences du théâtre de Lorca, avec... c'est intéressant qu'il y ait le théâtre de Lorca, mais on dit, mais où est Lorca? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Bon, on est en 39, Lorca est mort en 36.
Oui, il est un peu dans une fosse commune quand même.
C'est très bizarre. Mais en même temps, il y a des personnages. Je trouve par exemple que le personnage de Judith Chemla, moi, m'a fait penser au personnage d'Adela, par exemple, dans La Maison de Bernarda Alba. Il y a même vraiment du texte de La Maison de Bernarda Alba qui est.
Ça, vous l'avez tellement joué, Anna, c'est pour ça que vous l'avez reconnu.
La Maison de Bernarda Alba. Oui, je l'ai joué, c'est vrai.
Je le savais.
bon, bref, pas d'autre chose.
En tout cas, oui. Enfin, voilà, sur Spreegelburg, je vois quand même beaucoup une sorte d'écran de fumée et par moment, je vois de magnifiques acteurs amener de belles choses, souvent dans le rire, et dès que c'est un peu sérieux, j'ai du mal.
Et peut-être que le théâtre est impuissant à rendre compte aussi de sa mécanique. Il dit que c'est le cinéma qui l'intéresse, donc peut-être que seul le cinéma peut finalement...
Non, c'est la telenovela ce qui l'intéresse. Oui, c'est sur la durée.
C'est des scénarios échevelés comme ça qui se développent dans tous les sens.
Mais qui ne se rassemblent pas.
Mais en fait, il aime jouer aussi avec le feu, donc c'est pas étonnant qu'il aille jouer avec ça, mais c'est pas non plus interdit qu'on lui dise...
Oui, absolument. C'est ce qu'on essaie de faire ici. Il faudrait peut-être l'embaucher comme scénariste d'une sitcom. Plus belle la vie par Raphaël Spreegelburg. C'est pour être tout à fait intéressant.
Ça pourrait durer très longtemps.
Sur plusieurs années, ouais, avec ça. Une histoire à revivre. En tout cas, allez vous faire vous-même votre opinion au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis pour voir cet entêtement jusqu'au 4 décembre, puis en tournée, je l'ai dit, Beauvais, Saint-Quentin-en-Yvelines, Nîmes, Toulon, Strasbourg, Liège. Toutes les dates sur le site franceculture.fr à la page de la dispute. Avant de parler d'un troisième spectacle, celui mis en scène par Stanislas Nordet avec Valérie Lang, intitulé Sodome Madouce, un texte de Laurent Godet, à Théâtre Ouvert, un coup de fil à Yves Degrise.
Hello.
Bonsoir Yves Degrise.
Bonsoir.
Je vous appelle ce soir à l'occasion de la création en France de Land's End, que l'on pourra voir donc de mercredi à samedi, dans le cadre du Next Festival, le festival organisé par la scène nationale La Rose des Vents de Villeneuve-d'Ascq. Land's End, c'est une création donc de Berlin, qui est un collectif qui était au départ un trio. Vous êtes aujourd'hui deux artistes anversois, vous-même Yves Degrise et Bart Bell, dans ce collectif Berlin. La question de la frontière, on va le voir, est au cœur de cette nouvelle création. On peut aussi dire que vos propositions artistiques depuis plusieurs années cherchent justement à faire tomber les frontières entre les différentes disciplines artistiques. Vous utilisez pour votre théâtre, et je mets ce mot entre guillemets, la vidéo, la musique, la performance, et puis vous interrogez aussi bien de façon documentaire la fiction. C'est le sujet, Yves Degrise, qui détermine le langage à utiliser.
Oui, en effet, c'est-à-dire en 2003, on a commencé notre structure. L'idée, c'était de commencer une structure, la Compagnie Berlin, pour être libre, disons. Donc, pendant chaque projet, de voir quelle discipline est-ce qu'on a besoin pour raconter l'histoire le mieux possible. Si on a besoin de théâtre, si on a besoin de... Le film, c'est le film, ça dépend du sujet, du contenu. Donc là, on a commencé le cycle Holocène, ce sont des portraits de villes. On a commencé à Jérusalem et après on a fait un projet au Pôle Nord et à Bonanza aussi et à Moscou. Et chaque fois, c'était le contenu, les caractéristiques, le caractère de la ville qui nous donne l'idée pour utiliser quelle forme ou quelle discipline.
Alors là, il y a un nouveau cycle qui a commencé, Yves Degrise, dont Land's End est la deuxième création. C'est un cycle que vous avez baptisé Aurore Vacui, la peur du vide. En partir de petites histoires, de ces faits divers qu'on peut lire pour dire la grande histoire, pour dire le monde, comment est-ce qu'est née cette envie de travailler sur cette thématique Aurore Vacui?
C'est-à-dire, on a pendant notre travail dans le cycle Holocène, on a remarqué que pendant des conversations avec les gens, les interviewés, qu'il y a toujours cette nécessité de trouver des réponses, des explications pour chaque phénomène, qui est ce qu'on voit dans la nature aussi avec Aurore Vacui, c'est toujours essayer de remplir. Il n'y a pas un espace vide, disons. Et là, on a essayé, on a remarqué que ça serait intéressant d'interviewer des gens, mais toujours à part, donc plusieurs interviews sur un sujet, mais pas ensemble. Donc chaque fois, c'est des interviews séparées, disons. Et c'est par le montage et la façon de demander les questions que sur scène, tu as l'impression que c'est vraiment conversation entre les gens.
Alors justement pour Land's End, vous êtes parti d'un fait divers franco-belge, une histoire de meurtre. Il faut expliquer que donc c'est la police française qui a arrêté l'assassin et la police belge qui a arrêté la femme qui avait en fait commandité le meurtre. Est-ce que vous pouvez raconter la suite de cette histoire assez incroyable, Yves Degrise?
Oui, c'est vrai, le tueur à gage était français. La dame qui a donné l'ordre de tuer son mari était belge. Ils étaient tous les deux, ils étaient dans la prison. Lui, il était dans la prison française et elle dans la prison belge. À un certain moment, leur déclaration, il y avait des contradictions dans leur déclaration. Mais par la loi, donc la France ni la Belgique, en fait, extradent leurs
citoyens, leurs ressortissants.
Leurs citoyens pour des interrogatoires, pour des confrontations. Et là, le juge d'instruction belge, il avait vraiment un problème, mais il a trouvé cette solution. Il y a une ferme à la frontière la Belgique-la France, et la ligne de la frontière passe le salon de la ferme. Et là, il a mis deux chaises, le côté français, le côté belge, et comme ça, ils étaient capables de faire cette confrontation.
Une confrontation autour d'une table, et chacun dans son pays. Alors, très concrètement, pour finir là-dessus, Yves de Grise, à partir de là, comment est-ce que Berlin, votre collectif, s'empare de cette affaire ? Quelle forme vous semble adaptée ? Dans quel lieu ? Parce qu'on sait aussi que vous aimez faire sortir le théâtre du théâtre. Comment est-ce que vous allez présenter ce spectacle-là ?
Pour être concret, ici, la première à Courtrai, ça sera dans une vieille usine d'une compagnie d'électricité. Il y a deux espaces dans cette usine qu'on utilise. Le premier espace, c'est il y aura 7 installations. Et chaque installation raconte un aspect de l'histoire. Donc, du moment où la femme a décidé de tuer son mari, jusqu'au moment qu'elle est dans la prison. Et là, on a choisi 7 moments dans l'année qu'elle a décidé. Et chaque installation raconte une histoire, ce sont des clés pour la deuxième partie. Dans la deuxième partie, c'est notre espace dans la même usine. Ça, pour nous, c'est ce qu'on appelle le spectacle. C'est-à-dire, il y a un début, il y a un fin, il y a des gradins, il y a des comédiens sur scène, il y a des écrans vidéo avec des interviewés sur le sujet.
Bon, il ne faut pas en dire beaucoup plus, mais je pense qu'on aura donné envie à beaucoup de gens d'aller découvrir Land's End et le Next Festival, organisé par cette scène nationale de Villeneuve-d'Ascq, La Rose des Vents. On retrouve bien sûr toutes les informations sur le site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Merci beaucoup à vous, Yves de Grise. Et nous poursuivons cette dispute spectacle vivant en compagnie ce soir de Joël Gaillot, Anna Segalevitch et Patrick Sourd avec un spectacle présenté en ce moment à Théâtre Ouvert chez Micheline et Lucien Atoun à Paris dans le cadre, lui, d'une carte blanche à Stanislas Nordet. Le comédien et metteur en scène a choisi son ancienne complice Valérie Lang pour des retrouvailles assez radicales, mais on n'attendait pas moins d'eux, en mettant la comédienne seule en scène sur un texte de Laurent Godet, Sodome ma douce. Une heure durant, la comédienne, qu'on va dire seulement habillée de lumière, les bras levés dans une pose de statuaire, là aussi qu'on a déjà vu chez l'une jouant pour l'autre, va raconter sa ville natale, Sodome, et sa chute.
L'ambassadeur véronais n'avait pas menti. La maladie a pris de tous côtés, dévorant les hommes avec appétit et commençant par les bas quartiers, décimant le peuple qui vivait dans les rues borgnes. Puis elle se propagea d'étreinte en étreinte. Elle se transmettait dans l'air, dans l'eau, par attouchement. Il n'y avait pas moyen d'éviter l'embrasement. Elle était partout. Les hommes se réveillaient au matin avec un bubon sur les jambes ou sur l'avant-bras, ils savaient que c'était fini. Il ne leur restait que quelques heures à vivre, quelques jours peut-être, le temps que les bubons se multiplient, que la chair noircisse.
Un extrait donc de Sodome ma douce, interprété par Valérie Lang, mise en scène Stanislas Nordet, le texte Laurent Godet, c'était au Théâtre Ouvert. Joëlle Gayot.
Mais je suis contente de parler de ce spectacle parce que je suis contente de parler de cette actrice surtout. Si je pouvais ne pas parler du texte, ça m'arrangerait parce que je ne suis vraiment pas une fan de Laurent Godet. Et là, pas plus que précédemment, il a déjà été mis en scène par Stanislas Nordet et c'est vraiment une dramaturgie. Moi, qui ne me plaît pas. Alors, rapidement, hein, l'histoire, c'est Sodome, qui est un lieu de licence, de plaisir, qui va être envahi par des étrangers, notamment un étranger qui vient, qui se livre lui aussi à la luxure et qui va contaminer absolument toutes les femmes de Sodome, sauf une, celle qui échappe à ce massacre qu'on entend, c'est Valérie Lang. Elle survit, mais les guerriers arrivent, qui vont détruire la cité et enterrer cette femme dans du sel. Donc, le sel la ronge, elle souffre terriblement, elle ne meurt pas, la plus lui tombe, la réveille, et là commence la prise de parole de cette femme. Donc, et c'est un texte qui est évidemment une sorte de métaphore à la fois du sida qui arrive. Jean-Luc Lagarce l'avait écrit quand il avait écrit Vague souvenir de l'année de la peste, et à mon avis, de manière plus intéressante. Moi, c'est une dramaturgie que je trouve pleine de savoir-faire, pleine de ressorts très attendus, et donc j'ai pas très envie de m'attarder là-dessus. Par contre, j'ai envie de parler de Valérie Lang parce que, vous l'avez dit, Arnaud, c'est vrai qu'elle joue nue intégralement. Elle arrive, elle est assise sur une chaise, les jambes écartées, face publique, dans une proximité comme ce théâtre peut le permettre. C'est un petit théâtre. Ça rappelle un peu le dispositif de Médée Matérieux qu'avait mis en scène Anatoly Vassiliev avec Valérie Dréville à Avignon, sauf qu'on s'en éloigne petit à petit. Puisqu'elle se lève, à un moment donné, elle va se tenir dans une immobilité très radicale pendant 40 minutes environ, les bras levés au-dessus de la tête. Et là, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que tout à coup, ce qui est impudique, ce n'est plus son corps nu ou même son sexe qu'on discerne, même si la lumière l'enrobe et l'habille, c'est son visage qui devient impudique. Et ce visage, à un moment, il n'est même plus regardable. C'est-à-dire qu'elle se met à pleurer, à baver, elle a de la salive qui lui sort de la bouche, elle a de la morve qui lui sort du nez, et c'est à peine regardable. Et il y a quelque chose dans cette façon d'aller très très loin dans l'exposition et la surexposition d'elle-même qui transcende complètement à la fois le texte de Laurent Godet qu'on a fini par oublier au bout d'un moment, et en même temps le théâtre, parce qu'on est complètement dans un registre plastique. Le travail que cette actrice parvient à faire sur elle-même, les limites qu'elle parvient à franchir, c'est une des rares, je crois, en France aujourd'hui, à être capable de faire ça.
Il faut avoir envie surtout, je pense aussi,
mais
Joëlle.
Ce n'est pas la
question d'être capable, c'est la question d'avoir envie qu'un metteur en scène vous demande ça et de le faire. Oui.
Mais il y a une très grande complicité entre elle et Nordet, ça explique aussi ça.
Vous faisiez la comparaison avec le travail de Vassiliev. Là, on était vraiment dans un cérémonial, dans quelque chose de presque inaudible. Là, avec Nordet et la proposition qu'il fait, moi, j'ai plutôt pensé au film un peu érotique soft ou à une sorte de sadomasochisme de série Z, quoi. Et c'est là où, bon, disons qu'il y aurait un petit peu d'humour. Le problème, c'est que Valérie Lang se retrouve avec les bras en l'air pendant 45 minutes. Et que la torture qu'elle subit est vraie et véritable.
Oui, parce que c'était déjà le cas dans Electre, il y a 2-3 ans, mis en scène par Nordet.
On ne s'amuse
moins
pas
long.
Là. Et c'est pour
pas drôle,
ça
là.
Qu'au bout d'un moment, la douleur est telle qu'effectivement, cette femme qui se présente offerte et qui est très belle, devient une espèce de monstre d'avant.
Une espèce.
Une
espèce.
Vous avez une amende.
C'était lui la critique qui était là la semaine dernière.
Une espèce. C'est pas lui la critique.
Une espèce.
Une espèce de torture.
De monstres absolus, bavants, écumants. Et on voit cette beauté se désagréger devant nous. Ouais, alors, est-ce que ça, c'est... Moi, je dis que c'est plutôt de l'ordre de la performance.
Est-ce qu'on va au théâtre pour une séance de sadomasochisme?
Voilà.
C'est une question qu'on peut se poser. Anna Segalevitch.
Maintenant, je ne suis pas d'accord.
Avec quoi? On a posé une question.
Non,
je ne suis pas d'accord avec personne. Comme ça, c'est très simple.
Je suis d'accord avec moi-même. Non, je suis pas d'accord avec vous parce que... Oui, pas toujours, d'ailleurs, c'est vrai. Mais pour moi, ce qui est réussi... Donc, on parle de performance. Bien sûr, il y a de la performance. Mais là où elle arrive à faire quelque chose, pour moi, de très fort, c'est qu'elle n'est pas complaisante. C'est-à-dire que malgré le fait qu'elle soit comme ça, nue, pendant une heure sur scène, elle est avant tout... J'ai pas eu le sentiment de voir une actrice qui se fait plaisir, quoi.
Elle est soumise.
Elle a les bras au ciel. C'est une torture terrible de tenir ses bras pendant 3/4 d'heure.
Mais Isabelle Huppert le faisait avec Régie pendant 2 heures aussi, dans 448 psychoses. Non, après, je veux dire, le travail d'un acteur. Moi, j'ai pas ressenti cette douleur. Je l'ai senti par un moment, effectivement. Mais tout ça au service du texte et pour raconter une histoire.
Le texte? On en parle du texte ou pas ?
Non, mais pour raconter cette histoire.
Non, mais puisque vous parlez de ça.
Bon, le texte, moi non plus, je trouve que c'est un peu un texte intelligent normalien. C'est-à-dire que voilà, une sorte de texte.
On finit les phrases.
D'ailleurs, Stanislas Landais, il dit que c'est un technicien de la menace. C'est étrange de parler de lui en disant technicien de la menace.
C'est pour trouver un truc gentil à dire, non ?
Technicien de la menace ?
Oui, bon.
Non, c'est comme ça qu'il en parle.
Il y a
à la fois son visage et il y a en même temps surtout sa voix. C'est surtout ça qui. C'est pour ça que je vois pas en quoi la position de Valérie Lang peut être gênante. Elle est effectivement dans cette fixité, mais en même temps, ce qui se passe justement découle et naît de cette fixité. Et il n'y aurait pas cet abandon, comme dit Anna, qui est pas au service d'elle-même, qui est au service d'une profération et surtout d'une.
Non, mais ça n'a
d'un
rien
timbre de voix,
pour elle.
D'une voix. Non,
mais ça pourrait la faire
conjoindre sur les émotions.
Très souvent.
Pas du tout chez elle.
Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est au service d'une histoire.
C'est au service d'un metteur en scène.
Un trio. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, il y a quand même. Enfin, bon, après, avec les qualités et les défauts du texte, il y a le point de rencontre absolument parfait pour moi entre le texte, le metteur en scène et la comédienne. Ça, c'est assez rare. Je trouve qu'il se porte vraiment. Je vous en prie.
Patrick.
Non, mais cela dit, on avait dit exactement les mêmes choses quand on avait parlé du travail de Valérie Dréville avec Vassiliev en disant que c'était absolument insupportable qu'il lui demande de faire des choses pareilles. Et les gens, c'était. Il y avait eu des tribunes.
Non, mais
si tu veux.
À la fois troublé et abusif. Oui.
Non, pas du tout.
Patrick.
Il y avait vraiment. Les gens se disaient entre eux, c'est pas possible qu'il l'amène à cet endroit-là. Et quand un metteur en scène demande à une actrice de faire des choses. Je dirais qu'ils sortent de cet ordinaire de la décence, forcément, on va lui reprocher de l'emmener trop loin. Moi, par rapport à ce sujet-là, ce qui me gêne, c'est que ça passe par une vraie souffrance. Parce que c'est ça qui me gêne. Mais après, si ça restait du théâtre.
Bon, je vois que l'heure tourne et vous avez deux coups de cœur à énoncer. J'aimerais bien qu'on entende, mais. Bon, c'est en tout cas jusqu'au 3 décembre, Sodome Madous, au Théâtre Ouvert. Et la chose intéressante à dire, c'est que justement le samedi après-midi, on sera le 3, c'est Valérie Lang qui a une carte blanche à 18h. J'aimerais tellement qu'elle fasse subir quelque chose à Stanislas Nordet. Bon, je le dis tout haut.
Est-ce qu'on a envie de voir Stanislas Nordet tout nu, les bras en l'air ? C'est pas si sûr.
Non, mais j'aimerais peut-être qu'il subisse cette épreuve qu'il fait subir. Mais enfin, c'est leurs histoires, je dis ça, c'est complètement. La semaine dernière, j'ai passé un coup de fil à Nasser Djemaï il y a deux semaines, je ne sais plus, à la veille de la création d'Invisible à la MC2 de Grenoble, un spectacle qui va partir pour une très longue tournée. Quelques mots de Patrick Sour sur ce spectacle.
En fait, il nous fait rentrer dans l'univers des Chibani, c'est les vieux travailleurs émigrés qui se retrouvent à continuer d'habiter dans des foyers alors qu'ils sont à la retraite, mais qu'ils ne peuvent pas prendre leur retraite au pays parce que sans ça, elle est divisée par deux ou trois.
Parce qu'il faut résider plus de six mois et un jour en France
donc,
pour toucher la retraite.
Donc en fait, ils restent ensemble et puis tous n'ont pas la retraite. Et donc en fait, Nasser Djemaï a réuni 5 comédiens d'origine maghrébine qui ont fait leur carrière dans le cinéma français et dans le théâtre français, qui sont tous sublimes, absolument sublimes, avec leurs cheveux blancs et leurs petites moustaches grises. Et vraiment, c'est un bonheur. Et dans cette histoire-là, il y a un jeune homme qui vient rechercher son père. Et c'est un très, très joli spectacle.
Un très beau spectacle qu'on va pouvoir voir dans de très nombreux endroits. Il y a une très grande tournée. On retrouvera les dates via le site de France Culture. À la page à dispute, c'est à Grenoble jusqu'au 3 décembre, en tout cas. Une tournée qui s'étale jusqu'au mois de mai. Quelques mots, pardon, Joël, pour parler de Larry Beau qui vient de jouer à Beaubourg au Festival d'automne.
Dans le cas du Festival d'automne, Paradistinguida, un spectacle qu'on va pouvoir voir les 30 novembre et 1er décembre au lieu unique à Nantes. Et franchement, voir un spectacle où il y a une idée à la seconde, idée à la seconde, où on est capable à ce point-là de dérision et en même temps de réflexion sur ce qu'est la danse, ce que c'est un plateau, comment l'investir et quoi en faire. C'est jubilatoire. On sort de là, on est réjouis.
Heureux Nantais, heureux celles et ceux qui l'ont vu cette semaine passée, en tout cas à Beaubourg et au lieu unique mercredi et jeudi soir. Merci à vous, Joël Gaillot, Anna Sigalevitch, Patrick Sour et Antoine Guillot d'avoir pris part à cette dispute avec moi ce soir. Toutes les informations franceculture.fr à la page de la dispute. Le répondeur, une espèce de répondeur au 01 56 40 25 11.
Une dispute, une espèce de message.
Une espèce de message. Laissez des espèces de messages. Dispute possible grâce à Fleur Havé, Céam Boutata, Daniel Fino, Antoine Guillot, Mélodie Lespine et Laurence Millet. Prise de son ce soir, Virginie Cassagne. Réalisation, Daniel Fino. Demain, une dispute cinéma, 21h au programme Time Out, Welcome in Vienna et Harakiri, mort d'un samouraï.